Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Eric Détang. Je fais partie du groupe Viveris, qui est une société une entreprise de services numériques et qui a donc par vocation l'objectif de traiter tout ce qui est numérique. Et donc, nous sommes confrontés aujourd'hui, au quotidien, à des problématiques sur la volumétrie des données, de tout ce qu'on travaille au quotidien, qui n'en finit pas d'augmenter avec tous les impacts que cela peut avoir au niveau écologique. Et donc, l'objectif d'aujourd'hui, eh bien, c'est de vous faire un petit focus là-dessus et de vous parler de sobriété. Alors, on a mis la réunion à 13h parce qu'on a dit on va faire coup double, on va parler de la sobriété numérique et on va parler de la sobriété des personnes en les empêchant d'aller déjeuner et boire peut-être un petit verre de rosé par rapport à cette chaleur. Mais moi, je resterai sur le numérique. Donc, tout d'abord, la sobriété. Oui, c'est passé. Excusez-moi. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est tous connectés avec notre smartphone, notre PC, notre iPad, que sais-je. Et on n'arrête pas d'échanger des données, hein, sachant que derrière le mot données, on met 36 000 trucs que l'on peut énumérer. Et cette explosion de données, eh ben, c'est pas très en phase avec notre démarche responsable en termes de consommation. On n'arrête pas de parler du fait de devoir diminuer notre consommation électrique, de faire attention aux gaz à effet de serre. Et on n'a pas forcément conscience que quand on clique sur son smartphone, eh ben on pollue comme quand on met en route le moteur de sa voiture. D'une façon différente, mais avec un résultat qui est un petit peu identique. Et c'est pour ça que dans nos métiers, nos clients nous parlent de plus en plus de sobriété numérique. Quand on lance de nouveaux projets, on le voit dans les appels d'offres, systématiquement, nos clients nous demandent quelle est notre politique RSE. C'est un élément de choix que l'on n'avait pas il y a 2 ou 3 ans. Il y a 2 ou 3 ans, personne ne nous en parlait, ou c'était on va boire le café, tiens, qu'est-ce que vous faites, hein, pour l'environnement, ceci, cela. Aujourd'hui, c'est un critère de sélection des entreprises. Donc, c'est devenu prépondérant pour tout le monde et tant mieux. Et donc, pour que ce critère, ben, on le prenne en compte, on s'est dit, il faut qu'on devienne sobre numériquement. Et c'est chacun d'entre nous, dans notre quotidien, que ce soit professionnel ou personnel, que l'on doit mettre cela en œuvre. Dans votre quotidien, j'ai essayé de vous prendre quelques exemples. Je suis désolé, mais j'ai pas, voilà. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Excusez-moi, la formation était rapide. Donc, j'ai voulu vous donner quelques exemples de notre quotidien, dans ce qu'on partage tous, une newsletter qu'on reçoit, que ce soit sur un sujet professionnel ou la newsletter du dernier site auquel on est abonné. Les spams, malheureusement, on n'y fait pas grand-chose pour les spams. On les reçoit et on les subit. Mais quand vous voyez que ce qui est en empreinte carbone au niveau mondial, les spams, ça correspond à 3,1 millions d'automobiles. C'est monstrueux. J'envoie un mail à mon voisin de bureau parce que c'est plus simple que de mettre mon truc sur une clé USB et de lui transmettre. Finalement, mon mail, il va faire 15 000 km avant d'arriver sur le bureau d'à côté. Et ainsi de suite. Christelle, notre responsable marketing, qui est au fond de la salle, m'a dit, tu feras une photo de la salle avec mon iPhone. Cette photo que vous faites, la dernière photo du petit, la photo de la salle ou que sais-je. Si on commence à regarder ce qu'elle va devenir, cette photo, c'est monstrueux. Je prends mon exemple. Je vais la laisser faire la photo parce que j'ai déjà les deux m'occuper, je ne vais pas y arriver autrement. Cette photo, je vais la faire sur mon téléphone. Donc, elle va être stockée une fois. Comme j'ai paramétré mon téléphone correctement, ça me le garde sur iCloud, ou au moins, ils vont me la garder 2 fois parce qu'ils me garantissent que ma photo est à disposition. Donc, j'en suis déjà à 3. J'ai eu l'idiotie de me connecter avec Google Photos en plus. Donc là, c'est pareil. Mes 2 photos vont être 2 fois sur Google Photos. Donc, vous voyez le facteur multiplicatif. Je vais l'envoyer par mail à Christelle, qui va le stocker, puis qui va dire, bah, moi, je vais faire une publication sur LinkedIn avec tout ça. Et puis, j'ai des collègues en interne qui vont répondre, qui vont republier, ainsi de suite. C'est-à-dire que la petite photo que je vais faire là, si vous faites le calcul rapide, elle va être à minima stockée plus de 100 fois. Donc, mon petit méga, parce que j'ai choisi de faire une photo 4K, hein, je suis en train de faire une photo de paysage, j'ai besoin au moins de ça. Vous vous rendez compte que ça va peut-être me générer entre 10 et 100 mégas si c'est republié, si vraiment mon truc intéresse, sur le net. Donc vous imaginez un peu la consommation, l'équivalent au gaz à effet de serre que je vais produire en ayant fait un malheureux clic. Et ça, je souhaitais vous en parler parce que ce n'est pas un truc auquel on pense quand on est en train de mitrailler, parce que nos outils, on mitraille à tout va. C'est un fait qu'avant, avec un appareil photo, on payait le développement, donc on faisait attention au clic. Plus aujourd'hui, on a l'impression de ne pas le payer. On le paye d'une façon différente et si, je pense qu'on le paye même peut-être un petit peu plus cher. Mais voilà un petit peu tous ces exemples que je voulais vous donner pour vous dire que au quotidien, ben, on est confronté à cela. Et ça, en termes d'impact, faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans un objectif. Alors, quand on parle de carbone, je vais parler au niveau global, c'est-à-dire que ce soit l'industrie lourde, le numérique ou autre. On a un objectif de retrouver la neutralité carbone en 2050. Avez-vous une idée de quand on était la dernière fois à la neutralité carbone? Je vais vous donner la réponse parce que moi, je ne le savais pas avant de préparer mon truc. C'est en 1960. Depuis 1960, on est toujours au-dessus. Donc l'objectif de 2050 est hyper ambitieux. Et il faut que dans tous les domaines, on diminue cette empreinte carbone. Et si vous regardez au niveau numérique aujourd'hui, on est à 3,8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En France, on est un petit peu meilleur, on n'est qu'à 2%. On fait peut-être moins de photos que les autres. Si vous regardez ce que ça va donner, des projections, en 2025, donc dans 2 ans, on va passer de 3,8% à 8%. C'est-à-dire qu'en 2 ans, on va multiplier par deux. Et on est parti sur une courbe de cet ordre-là. Donc il faut vraiment faire quelque chose parce que c'est une croissance exponentielle. Et si vous dites, bon, il faut faire quelque chose, mais est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont commencé à œuvrer sur le sujet? Ben, en France, quand vous regardez un petit peu quelles sont les entreprises qui ont fait un bilan carbone, vous avez 12% des entreprises qui l'ont fait. Donc on a un gros travail. Et même sur les 12% qui l'ont fait, vous n'en avez que 3,4% qui ont inclus dedans l'aspect numérique. Les gens ont eu le réflexe de dire, voilà, j'ai une usine de production alimentaire, je vais regarder ma chaîne de prod, où est-ce que j'ai l'émission de gaz à effet de serre, ainsi de suite. Mais je ne me suis pas posé la question d'aller regarder dans mes bureaux éventuellement. Alors que finalement, on se rend compte que ce n'est quand même pas négligeable. Et enfin, dernier impact que je voulais vous partager, parce que je trouve que c'est assez marquant. Internet, on génère de la consommation d'électricité. Si on disait c'est l'équivalent d'un pays, eh ben, ça serait le troisième plus gros consommateur derrière la Chine et les USA, ce qui est quand même relativement monstrueux. Donc face à cela, il y a des gens qui se sont dit quand même, il faut faire quelque chose. Et vous vous rendez compte que la sobriété numérique, ce n'est pas depuis 2 ou 3 ans où on n'arrête pas de nous en parler, et comme je vous le disais, où ça devient notre quotidien dans les entreprises et je dirais même dans notre vie au quotidien. La première fois, c'est en 2008. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Frédéric Bortage qui a créé Green IT et qui a défini ce que c'était, qui a dit, bah, la sobriété numérique, c'est la démarche qui va consister à concevoir des services numériques plus sobres et puis surtout à modérer les usages numériques que l'on a au quotidien. Sachant que les enjeux, ça va être de réduire les temps de recherche. Alors, vous allez me dire réduire les temps de recherche par rapport à la sobriété, qu'est-ce que ça fait? Bah, quand je réduis les temps de recherche, c'est parce que je manipule moins de données. Donc, je manipule moins de données, je consomme moins de bandes passantes, moins d'électricité sur des serveurs que je fais travailler, et donc je diminue mon empreinte carbone. Ça veut dire d'assainir mes sources. Moins mon panel de recherche, et plus mon panel de recherche est minime, ben moins je consomme. Ça va être de décommissionner les applications. Je reviens à mon exemple de smartphone tout à l'heure. Est-ce que vous prenez le temps en temps de supprimer des applis sur votre smartphone? Moi, je suis le mauvais élève, j'ai tendance à les laisser. Et puis je me dis, mince, ce truc-là, je l'ai installé un jour. Il y a des fois, je ne me souviens même plus pourquoi. Et puis finalement, à quoi il sert? Puis quand je regarde, je me dis, ah bah tiens, c'est pour ça que ma batterie, je la désingue, parce que le truc, il tourne en arrière-plan et puis il me consomme gentiment de l'électricité. Donc, vous voyez au niveau d'un particulier sur son téléphone ce que ça donne. Imaginez ce que ça donne dans les entreprises. Je viens de discuter avec un grand groupe d'assurance. C'était le mois dernier, qui m'a dit, écoutez, notre problème, on a une application qui utilise 9000 virtual machines. On voudrait faire le ménage. Je vous avoue, quand on vous pose la question comme ça, vous dites, je ne sais pas bien comment je m'y prends. On est encore en train d'y réfléchir parce que c'est tellement monstrueux qu'on se dit, mais comment faire? Quand je suis allé voir notre responsable informatique et je lui ai dit, j'ai un client avec 9000 VM, il m'a dit, moi, j'en gère 200. Hein, donc, je n'ai pas l'habitude à 9000. Donc, pour le moment, on est en train de réfléchir à ce qu'on va faire, mais voyez un peu, quand on voit l'impact au niveau personnel, voyez dans une entreprise ce que ça peut représenter, ce décommissionnement. Tout cela, ça va impliquer quand même que l'on gouverne l'information, parce que c'est bien de dire je vais faire le tri, je vais faire du ménage. Le premier truc, quand on a son disque ou son téléphone qui bloque, ça va être de dire je fais du ménage, je supprime. La première chose qu'on fait, enfin, ou alors j'ai peut-être pas de chance au jeu, je supprime toujours le truc qu'il ne fallait pas supprimer. Parce que c'est ce machin-là qui a dû venir en dernier. Et je dis, ah, mais non, ça, j'en ai pas besoin, pomme. Et j'ai à peine cliqué sur Delete que je me dis, zut, tu n'aurais pas dû le faire. Donc, dans une entreprise, ça a un autre impact que personnellement. Enfin, quoique, quand c'est votre fiche d'impôt que vous supprimez, ça a peut-être un gros impact. Mais ça veut dire qu'il faut être très attentif à cela pour supprimer et gérer l'information d'une façon correcte. Et donc, en mettant tout cela en place, on va arriver à améliorer nos résultats et obtenir cette fameuse sobriété numérique. Cette sobriété numérique, j'ai essayé de vous présenter 10 bonnes pratiques. Alors, ce n'est pas de moi, hein, c'est ce que j'ai trouvé en faisant un petit peu une synthèse de ce qui existait. Et c'est aussi bien dans notre quotidien qu'au niveau travail. Première chose, privilégier la connexion à un réseau Wi-Fi plutôt qu'à un réseau 3G, 4G, voire 5G. Tout simplement pour une chose, c'est que quand vous êtes en Wi-Fi, vous êtes 3 fois moins énergivore que quand vous faites appel à de la 4G. Donc tout de suite, vous avez un résultat immédiat. C'est préférer les audioconférences plutôt que les visios. Là, je me dis aujourd'hui, il faut être en visio, pas pour voir ma tête, mais pour voir mes slides. Mais le nombre de fois où on fait une réunion Teams en interne et puis on se voit tous, on se fait coucou, bon, c'est sympa quand on se dit bonjour. Après, l'utilité, elle est quand même relative. La différence, par contre, en termes de consommation, c'est qu'une minute d'audio, ça coûte 39% de moins qu'une minute de visio. Donc, on a tout de suite des gains hyper importants en termes de consommation si on passe de visio au lieu d'être en audio. Donc, Christelle, maintenant, je t'appellerai plus qu'en visio, plus qu'en audio, pardon. C'est aussi, quand on écoute de la musique, bah, on a tendance à aller au plus simple. On va sur YouTube et on cherche notre disque préféré. Il nous passe une vidéo avec la musique, ainsi de suite. Là, la différence entre aller écouter quelque chose sur Deezer ou aller l'écouter sur YouTube. Alors, je vous prends deux exemples. Je suis pas un influenceur qui vous dit d'utiliser, il ne me paye pas les deux, là. Mais globalement, c'est un facteur 10 en termes de consommation entre un Deezer et un YouTube. Donc, si vous voulez avoir un bon son et écouter votre chanson, préférez Deezer. En plus, vous ferez une bonne action et vous pourrez écouter 10 fois plus de musique pour la même consommation qu'une chanson sur YouTube. Vous avez également le fait de régler la qualité de votre image sur une résolution plus basse. Pour vous donner un exemple, une heure de streaming en vidéo en haute résolution, c'est 10 fois plus de données échangées que la même chose en basse résolution. Sachant que très souvent, on choisit une résolution dans les films qu'on va télécharger qui est plus haute que ce que notre écran est capable d'afficher. Donc finalement, ça ne nous sert pas à grand-chose. Autre exemple, dans ces bonnes pratiques, c'est sympa d'avoir un grand écran, mais bon, on a l'impression, quand on va chez certains clients, que les écrans qu'ils utilisent, ils sont dans une salle de commande d'un aéroport parce qu'ils ont des écrans monstrueux. Il faut voir que la consommation des écrans, plus on augmente la taille, la consommation devient énorme. Donc, il faut, je dirais, trouver le juste milieu comment dirais-je, pour aussi, comme on le voit sur ce tableau, je dirais, diminuer la consommation. Hop. Il faut aussi allonger la durée de vie des appareils en faisant des choix adaptés. Il faut savoir que dans la fabrication des appareils, ça représente 80% de leur empreinte carbone dans la durée de vie de l'appareil. Donc, on a tendance et on est poussé parce qu'on a le dernier Samsung, le dernier iPhone, le dernier ceci, le dernier cela, des offres promotionnelles et toc, on va changer pour avoir fonctionnalités en plus dont on servira peut-être, mais on ne s'en servira certainement pas. Mais résultat des courses, on va racheter un nouveau appareil, c'est là où on a la consommation et finalement, l'autre appareil, on va rien en refaire derrière. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va nous augmenter la consommation. C'est également réduire le nombre d'appareils à disposition. On a tendance à avoir son PC, on a eu après notre smartphone, et puis on voit des gens qui ont aussi des tablettes. Je pense qu'il y a un moment, il faut qu'on se raisonne et puis qu'on se dise, est-ce que j'ai besoin de ces trois appareils ? Est-ce qu'il n'y a pas double emploi quelque part ? Parce que, toujours pareil, au niveau de la fabrication de ces appareils, ben, on va multiplier la consommation. C'est, j'ai l'impression de parler avec mes enfants des fois quand j'annonce ces trucs-là, c'est éteindre les appareils quand on n'en a pas besoin. On part en vacances, on a toute la maison qui reste sous Internet, les appareils en veille. On ne se rend pas compte qu'on a une consommation énorme puisqu'un appareil en veille, ça entre 20 et 40% de la consommation quand on l'utilise. Donc, on consomme pour rien et surtout aussi, on paie pour rien. Puisque au niveau personnel, c'est quand même quelque chose qui n'est pas neutre. C'est aussi, quand au niveau entreprise, stocker ces données dans des pays où l'électricité est la moins carbonée. Aujourd'hui, il faut savoir que quand on met ces données dans le cloud, quand on décide de travailler, je vais citer les deux plus grands, AWS et Azure, on a la possibilité de choisir où nos données doivent être stockées. Or, typiquement, le réflexe qu'on a au niveau entreprise, c'est de dire, je ne veux pas être en Irlande, je ne veux pas être dans un pays qui dépend du pacte américain, parce que j'ai envie que mes données restent préservées. Donc, je vais choisir de les mettre en Europe. Je peux dire, j'en veux en France, j'en veux en Allemagne, j'en veux où je veux à peu près. Mais ce choix, je peux le faire pas que pour une raison de confidentialité, je peux le faire également dans le cadre d'une démarche de sobriété numérique en disant, bah, je veux plutôt que ce soit, par exemple, stocké en France que stocké en Allemagne où la majorité de la production d'électricité est d'origine fossile. On aura la même, la même garantie en termes de sécurité de mes données et de confidentialité de mes données. On ne dépend pas du Patriot Act, mais on aura en plus cet agrément de consommer un petit peu moins d'électricité. Et enfin, la dernière bonne pratique, c'est de diminuer la quantité de données que l'on stocke. Parce que on a vu moult exemples depuis qu'on discute ensemble, enfin surtout que je parle plutôt, sur les données que l'on traite. Et donc, cette sobriété, elle peut s'appliquer bien évidemment aux données. Et aujourd'hui, il est clair que l'information, elle est partout. Que ce soit dans notre problématique personnelle ou notre problématique professionnelle, on a de l'information partout. Dans nos mails, dans nos disques partagés, dans des applications. Donc, cette information, elle est très importante, mais à cette information, il est assuré des risques. Avant, j'avais un document que je devais conserver, je le mettais dans une boîte à archives, je savais où il est. Maintenant, quand je le mets sur mon PC, je suis parfois un peu moins sûr d'où il est. Et puis, finalement, quand je vais faire du ménage, ce document, il a peut-être de la valeur, donc il va être nécessaire de gouverner cette information. Et gouverner cette information, ben, ça y est, on revient à la production et vous voyez au niveau mondial la production de données, comment elle évolue depuis pas longtemps, depuis 2005. On parle d'il y a à peine 20 ans. On était à 0,1 zettabyte. Je ne saurais pas vous dire combien ça fait de kilooctets, ça, mais en fait un paquet, mais surtout ce qui est important, c'est de porter attention sur l'évolution. Vous vous rendez compte que entre 2010 et 2015, on avait un accroissement annuel de 9%. Entre 2015 et 2020, c'était du même ordre. Entre 2015 et 2020, pardon, excusez-moi, je vous dis une ânerie, c'était de 16%. Mais depuis 2020 à 2025, on est à 36% d'augmentation par an. C'est absolument monstrueux tout ce qu'on stocke. Et on voit qu'en parallèle, c'est un fait qu'on est rentré dans une dynamique au niveau des entreprises de dématérialisation, puisque on le voit aujourd'hui, les factures doivent toutes être, si je prends cet exemple, en 2024, toutes les personnes qui émettent des factures devront les émettre de façon dématérialisée. C'est-à-dire que même l'artisan du coin qui vient faire des travaux de peinture chez vous devra faire sa facture sous forme dématérialisée, et pour cela, il disposera de la plateforme Chorus qui lui permettra de l'éditer. Il ne sera pas obligé d'investir dans un outil de facturation. Il aura une plateforme qui lui permet de le faire. Mais tout cela, ça va aller dans le sens de « j'ai de plus en plus de données ». Et ces données, quand on les regarde, il y en a 10% qui sont structurées. Celles-là, c'est les données qui sont gérées par nos applications métiers. Généralement, c'est plutôt bien fait. On n'a pas de données, je dirais, en stock qui débordent. Donc, on ne s'arrêtera pas trop dessus. Mais ça veut dire que sur les données que l'on a, on en a 90% qui ne sont pas structurées et qui sont principalement des fichiers Word, des PDF, des Excel, de l'image, des vidéos, que sais-je. Et si on regarde un petit peu de quoi c'est constitué, ces 90%, vous en avez 15% qui sont des données qu'on appelle les données critiques business, là, qui sont bien identifiées, que l'on connaît, dont on a besoin, que l'on maîtrise. Vous en avez 32% qui sont des données redondantes. J'ai stocké ma donnée business critique là, mais globalement, je ne suis pas trop confiance à mon informatique, donc je vais la mettre à un autre endroit où je suis sûr de moi, sur une clé USB que je vais paumer dans 3 jours, mais ça ne fait rien, je l'aurai mise de côté. C'est donc des informations qui sont redondantes, dont on n'a pas forcément besoin, mais que l'on va stocker, ne serait-ce que, tout simplement, vous envoyez un mail, vous mettez 4 personnes en copie, ces 4 personnes-là vont dire « Ah, le fichier qui m'a transmis, c'est intéressant, je me le garde. » Donc, on va être 4 à dire « Je le sauvegarde. » Et ce document-là, d'un seul coup, il s'est multiplié dans l'entreprise. Mais là, on est quand même, si on fait à 32 et 15, on est à 47%. Et il y en a 53%, ben là, c'est le grand flou. On appelle ça le dark data. C'est des informations qu'on a collectées. Typiquement, tiens, j'ai écouté cette présentation, je récupère les slides, ça m'intéresse, je les mets de côté. Quand est-ce que je vais rouvrir ce truc-là ? Moi, je sais que je vais le rouvrir jeudi parce que je fais un atelier, donc je sais où je vais le stocker pour m'en servir. Mais autrement, pas certain qu'on retourne le voir. Et puis, voilà, on va stocker tout un tas d'informations puisqu'on est dans un monde où on est noyé sur l'information qui arrive sans arrêt. Et ces informations, on va les stocker. Et ces informations, on les stocke tellement que même si on le souhaite, il est très difficile d'aller faire du tri dans cette information. Parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre et on a toujours peur d'effacer le truc qu'il ne faudrait pas. Parce qu'on se dit, bon, on a besoin d'une conformité. Je prends notre cas, on est certifié ISO 9001. J'ai l'attestation de renouvellement de cette année, mais est-ce qu'il n'y a pas un client qui va me demander toutes les attestations depuis le premier jour où on était certifié ? Donc, dans le doute, je préfère le garder. Finalement, aller chercher pourquoi en 2015 on était déjà certifié, je ne sais pas s'il y a un grand intérêt. Mais enfin, je le garde quand même, des fois que. Et toutes ces informations, ça consomme. Alors, je me suis permis de vous reprendre un tableau qui est dans un référentiel de la dématérialisation qui est édité par la société Cerda. C'est des informations qui sont publiques. Vous pouvez les récupérer en allant sur leur site ou en cherchant sur Internet, qui nous a donné une vision par type de flux que l'on traite et qui sont, si vous regardez, c'est un petit peu notre quotidien, de leur consommation en grammes de CO2. Vous vous rendez compte que quand je fais une requête de navigation sur Internet, chercher les bateaux qui vont permettre de naviguer sur l'île, c'est 2,3 grammes de CO2. L'impression d'un plan à zéro, donc c'est les plans à zéro, c'est les plus gros plans que vous pouvez trouver, c'est 140 grammes de CO2 et ainsi de suite. Bon. Je dirais, ça leur a permis ça, de faire ce tableau et de dire, au niveau de ce référentiel, ça va nous permettre de calculer dans l'entreprise quelle est notre dépense en CO2 par rapport à notre activité. Mais vous vous rendez compte que chacune de nos actions, on consomme un petit peu. Donc, par rapport à tout ça, comment apporter de la sobriété? Puisqu'on voit qu'on a une multitude de documents, beaucoup qui sont dans le dark data, on ne sait pas trop, que chaque action consomme. Donc aujourd'hui, comment faire? Alors, j'ai pris un exemple pour essayer d'illustrer ça. Un responsable informatique qui dit, moi j'ai mes file systems qui saturent, j'ai mis en place un outil collaboratif SharePoint, ça sature aussi, il faut que j'arrive à faire le ménage chez moi. J'ai des centaines de milliers de fichiers. Cet exemple, je ne l'ai pas pris au hasard, c'est un client qui nous l'a soumis l'année dernière, qui nous a dit, on a 42 Tera dans des disques, on n'a aucune idée de ce qu'il y a là-dessus. On est en train de migrer dans le cloud. On est en train de mettre un SharePoint Online. Tous ces trucs-là, on va payer au volume. On n'a pas envie de payer pour 42 Tera parce qu'on a une certitude. Il y a un grand pourcentage de trucs dont on n'a pas besoin. Mais on ne sait pas comment s'y prendre pour faire le tri. Et on ne voudrait pas supprimer des éléments qui sont importants. C'est un groupe mondial. Il y avait des fichiers de tous les pays. Donc, comment s'y prendre pour assainir ces espaces de stockage, pour que ça me coûte moins cher, et puis pour aussi, j'ai une démarche un petit peu plus éco-responsable, puisque c'est un industriel qui met en avant tout ce qu'il fait au niveau RSE, ça fait partie de ses critères de positionnement. Donc là, on a commencé par faire une étude avec lui, parce que, on peut pas, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas se mettre à tailler dans le vif là comme ça sans se poser de questions. Donc, essayer de voir quels étaient les éléments qui saturaient son entreprise, donc les SharePoint, les file systems, la messagerie, des solutions métiers, d'autres choses qu'on ne connaissait pas. Est-ce qu'il avait un système, de gestion de vidéos, de photos? Pourquoi il voulait faire ce ménage? Donc là, dans ce cas-là, on le savait. Jusqu'où il souhaitait aller? Donc, lui, il nous a dit, c'est simple, ce que je veux, c'est savoir ce que je peux supprimer. Et quand vous l'avez fait, vous me le classifiez par domaine et chaque direction va recevoir son panier. Et puis, dedans, va dire par rapport à tel critère, je suis d'accord, je supprime, je ne supprime pas. Et on est arrivé à la fin, on en a supprimé plus de la moitié. Ils en ont supprimé parce qu'on ne s'est pas permis de supprimer à la place de notre client. C'est quand même lui qui connaît ces documents. Voilà. Et donc, dans cette démarche, c'était qu'est-ce que vous voulez faire? Auditer les espaces existants. Donc, c'est ce qu'on a fait. Assainir en nous appuyant sur des critères techniques. Donc, les critères, ça a été les documents qui n'ont pas été consultés depuis plus tant de temps. Les documents qui sont des formats qui sont devenus des formats illisibles. Parce qu'il y en a. Vous retrouvez des trucs, vous dites, mais ça, j'en ai jamais entendu parler. Heureusement qu'il y a Monsieur Google pour retrouver de l'info et savoir ce que c'est. Assainir en interprétant le sens des documents. Je veux retrouver tous les documents qui parlent de tel sujet. Et pour parler de tel sujet, je vais essayer de trouver ce qu'on appelle des expressions régulières. Je vais voir, est-ce que j'ai tel type de phrase, tel mot proche les uns des autres, qui vont me permettre de dire, tiens, ce document, il doit parler de telle chose. C'est un document qui est candidat à être supprimé ou c'est un document qui, au contraire, est candidat à être conservé. Et donc, pour cela, c'est faire cet assainissement aussi en s'appuyant sur un référentiel de conservation. Aujourd'hui, on sait qu'en fonction d'une typologie ou une autre de document, on va devoir le conserver tant de temps. Un document, par exemple une facture, on doit le conserver 10 ans. Une feuille de paie, c'est à vie. Il faut que vous l'ayez au moins le jour où vous partez en retraite pour pouvoir reconstituer votre carrière. Et Si vous ne l'avez plus, vous devez pouvoir vous retourner vers votre employeur de l'époque. Il doit être capable de vous la refournir. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Une fois que je sais ce que je veux faire, j'ai un petit souci parce que je vous disais, il faut que je trouve les documents dans lesquels j'ai telle ou telle idée pour pouvoir les trouver. Ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Et aujourd'hui, c'est un fait que la technologie a fait quand même des bonds en avant, et notamment toutes les technologies d'intelligence artificielle. Et on voit des solutions qui s'appuient en gros sur trois domaines qui nous permettent de faire ça. Le langage naturel, c'est ce qui va nous permettre d'extraire le sens des documents. Hein, ce que je vous disais, je veux un document qui parle de telle chose. J'ai un client qui m'a demandé, je ne vous dirai pas son nom, parce que là, ça serait débordé, mais qui m'a dit, moi, je voudrais que vous nous trouviez tous les documents où on parle de transactions, de virements, et puis on a les mots comme Barbade, Caïman, et puis un certain nombre de pays. Et ça, ces documents-là, vous me les mettez de côté parce qu'il faut vraiment que ce soit de côté. Donc là, si on n'avait pas eu quelque chose de langage naturel pour nous permettre d'aller chercher dedans, on n'y serait pas arrivé. C'est aussi s'appuyer sur des technologies de machine learning qui, après cette extraction, vont nous permettre de trier et classer les documents. C'est des documents de type contrat, c'est des documents de type facture, ainsi de suite. Et puis tout ça nous génère des index monstrueux. Donc il faut des outils qui soient capables de faire ce qu'on appelle du big data. J'ai des gros volumes d'index, je n'ai pas pris le temps de les structurer parce que ça me prendrait un temps fou de faire ça, mais l'outil, il faut qu'il soit capable de mouliner, de les avaler pour me permettre de faire de la recherche dessus. Donc voilà, il faut qu'on ait des solutions qui nous permettent de faire ces trois trucs-là. Et parmi les solutions qui existent sur le marché, je me suis permis de vous donner un exemple d'une que je connais, qui est une solution faite par un éditeur français qui s'appelle Everteam, et c'est la solution Everteam Discover. Cette solution, elle va nous permettre de dire, ben voilà, moi je veux analyser des sources. Ces sources, c'est un file system, c'est un SharePoint, c'est un SAP. Vous m'excuserez, le mot file system et SharePoint revient très souvent parce que c'est là où on a le bazar. Et on a le bazar parce qu'on a dit aux gens, c'est votre espace de liberté, entre guillemets, faites ce que vous voulez pour stocker. C'est très très bien. Je pense que quand on a fait ces ouvertures, on n'avait pas encore l'idée de la croissance exponentielle qui allait en découler et des contraintes que ça allait amener derrière. Donc, ça va être la capacité de se connecter avec la solution de langage naturel, d'analyser les contenus, de les identifier et de les mettre à disposition comme on le souhaite, soit via des facettes et des tableaux comme l'exemple que je vous ai mis, mais qui vont nous permettre derrière ça, bah, de prendre des décisions vis-à-vis des documents. Je les supprime, je les conserve. Si je reprends l'exemple de mon client qui avait 42 terras, on en a supprimé la moitié. C'est un fait. Mais sur les 21 terras qui restaient, il y a à peu près un tera où il nous a dit ça, c'est des documents sur lesquels on a des obligations de conservation légale. Et donc, plutôt que de les mettre dans notre SharePoint Online, on va continuer de travailler avec vous. Vous allez nous mettre en place un système d'archivage électronique à valeur probante et on va verser les documents dedans et on les conservera uniquement pendant la durée de conservation légale pendant lesquelles on doit les garder. Et donc, on a mis en place ce SAE, puis ça s'appelle comme ça, avec un référentiel de conservation qui, pour toutes les typologies de documents de l'entreprise, dit ce document-là, on doit le garder tant de temps. Et quand on arrive au bout de ce délai, on doit mener telle action dessus. C'est je l'enlève et je le mets, on fait du stockage glacier, entre guillemets. C'est-à-dire on met ça sur des supports extérieurs ou on met ça si on est chez Amazon sur un environnement S3 où on ne paye pas cher le stockage, mais les temps d'accès sont longs. Et on va avoir une solution comme ça. On va se dire, ce truc-là, je veux le garder parce que c'est l'histoire de la société. Je veux pas le supprimer. Ou au contraire, on va dire, ce document-là, à l'issue de sa période de conservation, j'ai une obligation de suppression. Ce qu'on oublie très souvent. On se dit, j'ai une obligation de conservation. On oublie que de temps en temps, on a des obligations de destruction. C'est les fameux droits personnels avec le RGPD, où les gens peuvent faire valoir leur droit à l'oubli. Et typiquement par rapport à un vrac numérique, Ben vous dites, moi voilà, j'ai quitté une entreprise et je n'y garde aucune trace de moi, je veux faire jouer mon droit à l'oubli, c'est quelque chose qui peut être hyper compliqué et qui peut coûter très cher au niveau des entreprises. On est en train de sortir un livre blanc sur le sujet et on a mis à titre d'exemple sur les 2-3 dernières années le nombre de plaintes qui ont été faites auprès de la CNIL et le coût que ça a coûté en termes de contravention pour les entreprises, on se rend compte que c'est monstrueux. Donc ces outils-là vont nous permettre de nous aider à ne pas tomber dans ces travers et à diminuer nos volumétries stockées et donc à améliorer notre sobriété numérique. Donc en conclusion, je dirais que aujourd'hui, il est urgent d'agir parce que sinon, dans 2 ans, on sera aux 8% d'émissions de gaz à effet de serre de la part du numérique. Alors qu'aujourd'hui, en France, on est à 2%. Au niveau mondial, on est presque à 4%. Comme je l'espère, vous l'avez vu, c'est un peu notre affaire à tous, cette sobriété numérique. C'est pas simplement la grande entreprise. Et quelque part, on s'y retrouve parce que quand on parle des efforts à faire, quand on voit les rassemblements de nos dirigeants, on se dit souvent, OK, moi en France, on me demande encore plus d'efforts. Mais pourquoi ils ne commencent pas par la Chine ou l'Inde ou je ne sais quel autre grand pays qui pollue beaucoup plus que nous? Maintenant, finalement, c'est toutes les petites rivières qui vont finir par faire de grands fleuves. Et donc, cette sobriété numérique, c'est notre quotidien de le faire. Dans cette sobriété, comme vous l'avez vu, l'assainissement des données, c'est une composante qui est non négligeable. Donc, faire le ménage, ça a de bonnes raisons d'être fait. Mais attention, il ne faut pas le faire n'importe comment parce qu'on peut supprimer des données de valeur. Et ça, on y est de plus en plus, comme on est de plus en plus dans une société dématérialisée. Et donc, c'est pour cela qu'il est nécessaire de procéder avec méthode. Se poser les questions que je vous expliquais tout à l'heure, bon, c'était du condensé, mais c'était l'esprit. Et puis utiliser des outils qui vont nous permettre de le faire. Et en parlant de cela, le dernier point, c'est que si vous souhaitez voir une mise en application, ce que je vous propose jeudi après-midi, c'est de venir de me rejoindre, ça ne sera pas dans cet établissement, c'est au Shadok à 15h, et je vous montrerai en m'appuyant sur la solution dont je vous parlais, puisque c'est celle-là que je connais, quelques cas d'usage de mise en application de la sobriété numérique, comment retrouver ces documents, comment les traiter, ainsi de suite. Et ça permettra d'illustrer un petit peu mon propos. Voilà ce que je voulais vous présenter cet après-midi. Je vous remercie pour votre présence et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'essayer d'y répondre. Merci. Avez-vous des questions? Et j'ai été si clair que ça. Ou alors incompréhensible. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, il me reste à vous remercier. Ah, si, t'en as une, Christelle? Oui, attends, il y a madame peut-être qui avait une question en ce moment-là. Il n'y a pas quelqu'un qui a levé le doigt? Ah! Alors, comment je fais pour entendre les questions de la discussion? Où tu les as, Christelle?
Monsieur Schweitzer qui vous demande confirmation sur le fait que privilégier l'écoute locale au streaming, est-ce que ça roule sur l'empreinte carbone?
Alors, l'écoute locale, alors moi j'en étais au streaming. Entre un Deezer et un YouTube, mais entre un Deezer et son DVD ou son iPod, j'avoue que je n'en sais rien. Mais j'aurais tendance à dire oui, parce que quand je vais sur Deezer, je vais utiliser de la bande passante, je vais faire travailler des serveurs externes et mon appareil d'écoute va quand même fonctionner. Si je suis qu'en interne avec mon outil personnel d'écoute, c'est un fait que je n'ai pas la bande passante, les serveurs externes ne marchent pas. Mais ça n'engage que moi.
Et une autre question assez précise, est-ce que vous connaissez la part de la vidéo dans le stockage et le flux des données ?
Non. Mais je pourrais le trouver.
On va donner la mission à Eric. Très bien. Eh bien, c'est une bonne transition déjà. Je voudrais vous remercier pour votre participation. Ce que je vous invite à faire, si vous souhaitez avoir la réponse, c'est que je vais laisser Eric plancher sur le sujet. Pour les personnes en visio, si vous souhaitez recevoir la présentation, n'hésitez pas à nous envoyer une demande à contact@vracnumérique.com. J'ai dû laisser le mail dans les discussions. Pour les personnes présentes, je vous invite à nous laisser vos coordonnées de la même façon si vous souhaitez recevoir la présentation. Et enfin, n'hésitez pas à nous suivre sur la page Vrac Numérique by Viveris sur LinkedIn. C'est VN by Viveris comme Vrac Numérique. Si vous voulez avoir une infographie, les bonnes pratiques que vous avez pu voir aujourd'hui et avoir beaucoup d'autres infos, je vous invite à nous suivre. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et à jeudi, on espère.
Et je dirais, pour nous suivre, on vous autorise à être un petit peu moins sobre. Merci.